On n'est qu'une bande de trolls, diaboliques, sans aucun respect ni aucune considération.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 11e épisode de la 4e saison de Serial Causeur. Je suis Adrien, votre hôte habituel, et j'ai avec moi, bien entendu, Tom de Small Things. Bonjour Tom.
Bonjour, 11e épisode déjà. Oh là là.
Déjà, le temps passe vite. Hein. Marina de Virgin Radio, bonjour Marina.
Bonjour.
Salut.
Arnaud de Sur nos écrans, bonjour Arnaud.
Salut.
Alan de l'info tout court, bonjour Alan.
Salut.
Et enfin, Sylvain d'IGN, bonjour Sylvain.
Salut.
Non mais
le enfin m'a fait tiquer. Comment ça enfin?
Puisque
tu es le dernier, c'est juste pour ça que je dis enfin.
C'est mon préféré.
Cet épisode, il est consacré aux séries que personne ne regarde. Vous connaissez le principe. C'est bien, chacun
on fait ça sur un podcast que personne n'écoute.
Mais arrête de dire des choses pareilles. Les gens nous écoutent. Les gens t'écoutent.
C'est vrai,
pas
toi, c'est
mais
vrai.
Ils écoutent les
Merci
autres.
D'ailleurs.
C'est juste toi, ils te mute et les autres, ils les écoutent. Alors, vous connaissez le principe, chacun a 2 minutes pour faire découvrir aux autres, et donc aux auditeurs également, une série qu'il est seul ou presque à regarder. Et on commence tout de suite avec Arnaud.
Oui, alors moi c'est Occupied. C'est une série franco-suédo-norvégienne. En fait, ça se passe dans un futur proche où le premier ministre norvégien a décidé d'arrêter le forage de pétrole. L'Union européenne n'est pas contente et du coup mandate la Russie d'envahir la Norvège pour les forcer à tout remettre en marche. Et du coup c'est une invasion sans vraiment porter le nom et une occupation sans vraiment porter le nom officiel. Et donc la Russie oblige à reprendre les forages, à rester quelques temps, pour que tout fonctionne, toutes les administrations se remettent en marche. Et du coup, c'est la question de comment ça va fonctionner cette occupation, entre guillemets, comment les gens vont le prendre, etc. Et je trouve que c'est une excellente série parce que déjà ça parle de l'actu. Et pour la saison 2 justement, j'ai vu les 2 premiers épisodes à Sériemania en avril dernier et la série parlait déjà de choses qui traitaient déjà de sujets qui n'étaient pas arrivés. Donc aujourd'hui, un an plus tard, ça peut paraître un peu facile d'en parler parce que c'est déjà passé. Mais à l'époque, c'était vraiment de l'anticipation pure et dure. Je ne sais pas pourquoi Arte a décidé d'attendre aussi longtemps pour la diffuser. Mais voilà, c'est une excellente série, un bon thriller politique et d'anticipation puisque ça passe dans un futur proche avec cette histoire de Russie qui envahit. Mais du coup, c'est une série que je recommande énormément et ça tombe bien parce que la saison 2 arrive très bientôt sur Arte. Arte rediffuse la saison 1 les 6 et 8 février, je crois. Et la semaine d'après, le 15, il y a la saison 2 qui démarre.
Et tes 2 minutes sont passées.
Je t'emmerde. 14 février. Voilà, merci Sylvain. Le 14 février sur Arte pour la saison 2.
Alors, je te dis une bêtise, c'est le 15.
Putain, je l'avais. Le 15 février, donc le jeudi soir, on va dire, vous regarderez dans votre calendrier, le jeudi soir sur Arte à 20h50 pour voir cette saison 2 d'Occupied et je t'emmerde, Adrien.
Très bien, oh,
moi,
excuse-moi,
Occupied, donc il a eu raison.
Très bien. Tom, puisque tu l'ouvres, tu vas nous parler de ta série.
Oui, alors je parle de F is for Family. Alors sans bruit, Netflix a mis en ligne les 6 premiers épisodes de la saison 1 l'année dernière. C'est une série animée créée par le comédien Bill Burr et le scénariste Michael Price, que personne ne connaît. F is for Family, ça raconte la vie d'une famille américaine installée en banlieue au milieu des années 70. Alors il y a Frank Murphy qui est bagagiste dans un aéroport, sa femme vend des boîtes plastiques. Leur fils aîné est un délinquant, leur second fils est un casse-cou, et la dernière est une chippie. En gros, c'est une famille américaine comme on en voit dans toutes les séries animées. L'importance de la période décrite permet de placer la famille au centre d'une époque où vraiment les règles étaient encore floues dans la société, donc c'est vraiment beaucoup de choses différentes par rapport à ce qu'on peut voir actuellement. Et en fait, la particularité de la série, c'est de proposer aussi une époque où tout nous paraît ridicule, comme acheter une télé couleur 70 cm ou de répondre à un téléphone mural. Enfin, c'est vraiment des choses qu'on croit vraiment désuètes. Alors c'est très rythmé, la VF, enfin, je regarde en VF parce qu'elle est très très bonne, on a vraiment des voix qui font rire même en disant de la merde. Les personnages secondaires sont de très bonne facture, il y a deux enfants un peu benêts dont l'un est en couche-culotte et qui a les meilleures répliques de la série, c'est vraiment génial, ils ont des voix en plus de merde. Sinon il y a un voisin blond un peu moustachu à la vie sexuelle débridée qui est aussi très drôle. Alors c'est grossier, c'est vulgaire. Il y a des insultes partout, des allusions sexuelles aussi. La relation père-fils est quand même assez brutale, elle est assez à vif, mais ça touche vraiment juste. Et on parle vraiment de la cellule familiale comme rarement. Et en fait, on joue pas tout sur les gags, il y a vraiment des situations quotidiennes qui font écho à notre enfance. Et pour moi, c'est une réussite totale. Et on rajoute aussi à ça un casting de voix un peu connues. Donc il y a Laura Dern, il y a Justine Long. Il y a même Sam Rockwell. Vince Vaughn est à la production. Alors, bah, n'hésitez pas, parce que là, la saison 2 de 10 épisodes est arrivée sur Netflix. C'est vraiment très drôle. Il y a une ambiance, bah, c'est différent des Simpsons, de Family Guy, de Bob's Burger, de tout ce qu'on peut voir en série familiale animée. Donc
Très
voilà.
bien. Parfait. Tu as fait une seconde de moins qu'Arnaud. Félicitations.
Ah.
C'était Tom donc pour F is for Family. Et maintenant, je vais laisser Sylvain parler de sa série.
dont tu ne peux pas dire le nom,
Non.
évidemment. Donc, c'est une série que personne ne regarde, qui s'appelle Chesapeake Shores, sur une chaîne que personne ne regarde d'ailleurs, dont je ne connaissais d'ailleurs même pas l'identité avant de commencer à regarder Chesapeake Shores. C'est Hallmark Channel.
Oui.
Voilà. Alors, du coup, je sais pas ce que ça diffuse exactement, mais a
Ah oui,
priori,
c'est
ça
les
diffuse.
films familiaux, là, Hallmark Channel.
Oh, ne coupe pas pendant ces deux
Pardon.
Non, non,
minutes.
À la droite, c'est Marina.
Pardon.
Et du coup, donc, alors, ça commence comme un roman de Nicholas Sparks, c'est-à-dire que je peux lire d'ailleurs très rapidement le résumé halluciné. C'est Abby O'Brien est une femme de pouvoir divorcée, mère de deux jumelles, entièrement dévouée à sa carrière. Elle laisse New York derrière elle pour rendre visite à sa famille dans sa ville natale de Chesapeake Shores. La jeune femme réalise durant son séjour que sa carrière occupe une place trop importante dans sa vie et envisage de déménager de façon permanente dans la bourgade dont elle est originaire. Alors vous allez me dire, dis donc, on dirait le résumé d'un film de Noël. Et oui, tout à fait.
Dis donc, on
Mais
dirait un résumé de film de Noël, Sylvain.
Mais tout à fait. Mais passé les deux premiers épisodes qui effectivement surfent un peu sur ce scénario assez simpliste, on retrouve, je trouve, énormément de Brothers and Sisters. Avec tous ces conflits familiaux, ces différents frères et sœurs qui se côtoient dans la même maison, dans la même petite ville américaine, mais évidemment qui sont tous dans un milieu globalement aisé. Donc c'est moi qui ai beaucoup aimé Brothers and Sisters et où j'ai pas vraiment retrouvé de série de ce type-là depuis que ça a été arrêté. Bah, je suis complètement tombé accro à Chesapeake Shores. D'autant plus qu'il y a des acteurs que moi j'aime bien. Donc
Ah
il y a
non.
par exemple, comment ça, non?
Ah mince.
Donc il y a par exemple Megan Horry. Alors voilà, personne ne la connaît
Cœur
également.
rebelle. Si, elle jouait dans Once Upon a Time, elle jouait.
Ah,
voilà.
référence. Et cœur
Exactement.
rebelle aussi.
Elle a joué dans un film de Noël, hein, pour info. Elle retrouve d'ailleurs Jesse Metcalf, je sais pas si je prononce d'ailleurs, de Desperate Housewives, avec lequel elle a joué dans Dead Rising, un film adapté d'un jeu vidéo. Et puis, on retrouve aussi des vieux de la vieille, qu'on pensait un peu has-been, c'est Barbara Niven et Treat Williams, pardon.
Surtout has-been,
Jack
hein.
Black aussi, d'ailleurs. Bon, ils sont un peu has-been, quoi, on va pas se mentir. Mais globalement, ça fonctionne vachement bien. Il y a de jolis environnements. C'est une vraie série
Oui.
familiale avec ses conflits.
Ça fait
C'est
pas
Alors lui, on l'arrête
telenovela?
pas. Hein. De quoi?
Ça fait pas telenovela un
Depuis
peu?
Mais arrête de
Télénovela, toi, t'arrêtes
l'interrompre,
pas.
il fait déjà péter le chrono, il fait déjà péter le
Oui,
chrono
mais
et tu
c'est
l'interromps
Sylvain,
encore
il a le
plus.
droit.
J'appuie le chrono.
Ouais, moi j'ai
Ah
pas le
oui, tu
droit.
pètes le chrono là.
Ça fait pas trop telenovela au-delà des deux premiers épisodes. Et a priori, même si aux États-Unis, je suis probablement le seul à regarder la série, sur Netflix, c'est un des plus gros succès de l'année. Donc voilà,
Les
bref,
chiffres.
il y a des gens qui regardent cette série qui a été renouvelée pour une saison 3 il y a quelques jours seulement. Voilà, donc
Bravo Sylvain.
c'est vraiment chouette.
Et qui s'appelle?
Chesapeake Shores.
Très bien. Très bien. Bon, maintenant je vais laisser Marina. Marina, tiens les 2 minutes et tu seras parfaite. Nous parler de Kevin Probably Save the World.
Alors, Kevin Provost Serves the World, c'est donc le héros joué par Jason Ritter qui après avoir tenté de se suicider, revient dans sa ville natale. Et en fait, il est touché par un météorite et il commence à avoir cette personne, Yvette, qui est en fait un ange envoyé par Dieu, qui l'oblige, entre guillemets, à faire le bien autour de lui. Et en fait, à chaque fois qu'il commet une bonne action, il a une vision. Et le but ultime, c'est de retrouver... Donc, lui, c'est une personne sainte, entre guillemets, qui est chargée de sauver le monde. Et il doit retrouver 35 personnes dans le monde qui sont comme lui. Et à chaque fois qu'il accomplit une bonne action, il a une vision qui le mène à découvrir une nouvelle personne, en fait. Et c'est une série qui est très drôle, avec une mythologie très 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 prometteuse, dans le sens où effectivement il y a ces personnes que Kevin doit retrouver dans le monde, et c'est très drôle parce que sa sœur, elle est jouée par Johanna Garcia. Et voilà, c'est une veuve, mais à la fois elle est professeure d'aéronautique, donc c'est quelqu'un qui est très intelligent, et elle a une petite fille, donc qui est aussi très timide, mais qui voit plein de choses. Et du coup, c'est une série qui est formidable parce que elle est drôle et à la fois elle est très dans l'émotion. Et elle est elle a une mythologie très 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 prometteuse, moi, que j'aime beaucoup. Et pareil, tous les personnages sont assez épais. Malheureusement, c'est une série que personne ne regarde, mais la boss de ABC aime beaucoup. Donc, je croise les doigts.
Oh, magnifique.
Très bien, 1 minute 54, parfait.
Bravo, c'est ma préférée.
Tu as le record de la saison.
Qu'est-ce que ça sous-entend, que moi je suis imparfait, c'est ça?
Quel a le record de la saison, c'est tout ce que ça sous-entend.
C'est la première fois qu'on fait ce concept de 2 minutes.
Non, deuxième fois, deuxième fois.
Ah bon.
La première personne l'a écouté.
Oui. Très bien. Et moi, je vais, avant de laisser la parole à Alan, je vais vous parler de Electric Dreams.
J'arrive mon microphone pour rien.
Non. Donc, c'est une série inspirée des nouvelles de Philip K. Dick, donc un grand auteur de science-fiction du niveau d'Asimov, qui est notamment connu pour avoir écrit... Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques, excusez-moi, donc l'inspiration de Blade Runner. Et j'ai envie de dire que c'est un peu comme si Black Mirror avait trouvé une série meilleure qu'elle, tout simplement, parce que c'est le même principe, c'est-à-dire que chaque épisode est une histoire différente, donc une anthologie. C'est inspiré à chaque fois de petites nouvelles de Philip K. Dick, et ça va raconter une histoire différente qui va se passer dans le futur, donc avec la technologie futuriste. Et là où c'est vachement intéressant, c'est que ça ne s'arrête pas à la dénonciation facile des travers de technologie moderne, c'est que c'est vraiment une série quasiment mélancolique, une série très bien faite, très sentimentale, sur la manière dont finalement ces nouvelles technologies, même si on a l'impression qu'elles nous changent la vie, au fond l'humain reste le même. Et au fond, comment on va pouvoir évoluer dans ce monde empli de nouvelles technologies, mais continuer à faire les mêmes choses, à aimer de la même manière et à vivre de la même manière, et être toujours plus nostalgique. Et c'est ça qui est très intéressant, parce que finalement on se rend compte que quelle que soit l'époque, il y a de la nostalgie, et qu'au fur et à mesure que l'époque avance, ceux qui sont jeunes deviennent vieux et regrettent l'époque où ils étaient jeunes. Donc là, c'est intéressant parce que c'est une série qui file un peu le vertige à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'être dans un futur, mais d'un autre côté, il y a vraiment des choses qui nous font... ressentir extrêmement proche de ce qui va se passer dans la série. C'est extrêmement complexe à ce niveau-là. Il y a vraiment un jeu d'équilibriste entre l'aspect futuriste qui est très poussé, mais d'un autre côté, vraiment quelque chose de très contemporain qui demeure. Donc c'est une série que je ne peux que recommander. Ça s'appelle Electric Dreams. C'est pas beaucoup regardé, je trouve ça dommage, parce que c'est Black Mirror, mais cette année, c'est devenu mieux. Et donc, je recommande absolument. C'est une très bonne série.
Et c'est diffusé sur...
Je sais pas du tout.
Je regarde la vidéo, voyons. Bah alors, faut réviser ses fiches. C'est bien de faire moins de 2 minutes, hein, mais faut essayer de savoir de quoi on parle là.
Prends ça.
De toute façon, personne regarde à la télé. Donc.
C'est un débat.
Donc, on va terminer avec Alan qui va avoir droit à un peu plus de temps en fait, puisque le double du temps qu'on a, puisqu'il va nous faire une spéciale série animée avec Devilman et Godzilla.
Donc oui, je vais vous parler des deux animés qui ont débarqué ce mois-ci sur Netflix. Donc on va commencer par Godzilla. Alors, Godzilla, la planète des monstres, qui était sous-titré ainsi, en fait, je suis surpris à la fois agréablement et à la fois je suis très énervé contre ce film-série, parce qu'en fait, il a été quand même vendu comme un film, et on se retrouve, ça dure 88 minutes, et en fait, à la fin du film, sans spoiler, ben, on se rend compte que ben non, c'est une filmerie, parce que du coup, ça enchante, c'est un épisode 1 d'une partie 1. Et en fait, en sortant de ça, on se dit, bah, il y a des idées, mais on a juste l'impression d'avoir une grosse introduction de 88 minutes. Alors, en film, c'est trop court, et en série, bah, c'est long pour une introduction. Pourtant, il y a des bonnes idées, parce que mine de rien, bah, ça se passe quand même dans le futur. Pour expliquer vite fait, bah, Godzilla et d'autres monstres débarquent sur Terre comme à son habitude pour toute la merde. Et derrière, les terriens sont incapables de le battre. Il y a des extraterrestres qui arrivent. Ils sont incapables de le battre aussi. Donc tout le monde se barre dans l'espace pour trouver une autre planète. Ils reviennent 20 ans plus tard, la queue entre les jambes, parce qu'ils n'ont rien trouvé. Sauf que sur Terre, il s'est passé 20 000 ans et que ben, Godzilla est toujours là et qu'il n'a pas décidé de leur laisser la planète. S'ensuit du coup, en fait, ben voilà, le film se divise un peu en deux. Enfin, la série se divise un peu en deux, c'est le premier épisode. Une première partie qui se la raconte beaucoup et la deuxième où c'est que de la baston. Donc il y a un petit peu de. J'ai l'impression de voir un épisode de Walking Dead en fait, où le rythme n'est pas du tout uniforme. Et je sais pas, je trouve qu'il y a des bonnes pistes puisque ça change un petit peu du Godzilla qu'on connaît habituellement et de l'histoire qu'on nous raconte habituellement. Et il y a des pistes explorées surtout par rapport à tout ce qui est religieux. Donc, mais je trouve qu'en fait Netflix nous arnaque un petit peu avec ce gros truc de 88 minutes et. Voilà, j'attends la suite, mais j'aurais aimé que ils soient un peu plus clairs dans leur projet, quoi. Ensuite, je vais parler un petit peu de Devilman Crybaby, donc qui est inspiré du manga de Go Nagai, qui est assez vieux comme manga. Et en fait, ça suit un petit peu la nouvelle logique de Netflix de mine de rien produire des animés japonais très sombres, comme peuvent l'être par exemple, bah, comment pu l'être Castlevania pour ses débuts. Et c'est vraiment, vraiment, pour le coup, hyper sombre. C'est-à-dire que faut s'habituer au dessin. Le dessin est quand même assez particulier, notamment en fait des personnages avec un trait assez simpliste. Mais alors, une fois qu'on est rentré dans l'histoire, ça devient, mais alors, morbide, gore, c'est ultra gore. Alors ça, pour le coup, c'est vraiment pas à conseiller tout le monde. Mais c'est passionnant. Ça raconte beaucoup sur à la fois. La société actuelle avec la peur de l'autre, le racisme, le rejet des étrangers, enfin tout des finalement quelque chose d'assez actuel, alors que pourtant Devilman, premier du nom, du coup, ça parlait déjà de ça et ça date de plusieurs décennies, une preuve qu'on n'a pas vraiment beaucoup évolué. Mais le récit monte en puissance assez dingue et ça dure 10 épisodes, c'est 10 épisodes de quoi, de 30 minutes et on sort de la série. On est juste, on n'a pas de mots, on est bouche bée et on se dit bah ok, j'ai eu du mal à rentrer dedans, mais une fois qu'on est dedans, c'est vraiment une claque qu'on se prend
Nom de ma
et
sextape.
voilà tout à fait. Et c'est vraiment quelque chose que je conseille pour voir un petit peu ceux qui pensent par exemple que les animés japonais ne sont que pour les ados ou quoi. Là, Devilman, c'est vraiment très adulte. Et on en sort sur le cul, quoi. Voilà, c'est sur Netflix.
Eh bien,
Bravo.
parfait. Donc, vous pouvez retrouver de toute façon tous ces bons conseils, pardon, dans la description de l'épisode. On vous notera les titres et vous pouvez aussi éventuellement les trouver, notamment pour les séries Netflix. C'est donc la fin de ce 11e épisode de Serial Causeur, consacré aux séries que personne ne regarde. J'espère qu'on vous aura donné envie d'en regarder.
Alors personnellement,
Et on se
non. Tout le
retrouve.
monde a raté sa mission. Voilà.
Ah, très bien. De toute façon, tu ne regardes rien, de toute
Moi,
façon.
j'ai beaucoup aimé la grosse introduction d'Alan.
Ah, moi aussi, ça m'a beaucoup plu. On se retrouve très vite pour un
Voilà.
nouvel épisode. Vous pouvez, en attendant, là c'est le moment que Tom adore, où je vais
Oui.
vous demander à chacun de dire
Donc
sur
pour
quels
moi.
médias on peut vous retrouver, en commençant par Sylvain.
Oui, alors bah moi du coup vous pouvez me retrouver sur IGN, la version française, sur dans le podcast Un épisode et j'arrête
Ah!
de l'association des critiques de séries et puis c'est tout, hein. Déjà c'est déjà largement suffisant et puis peut-être sur Twitter si vous voulez partager des gifs avec moi.
Très bien. Arnaud?
Moi, sur nos écrans et sur Twitter, Arnaud016, voilà.
Très bien.
Mais on m'a entendu cette fois?
Oui, très très bien. T'as très bien entendu, j'ai pas eu à faire
la voix à ta place.
Connard, okay, ouais. Comme. Hein.
Alors, Alan?
Je vais être gentleman et je vais laisser la parole aux Marina, parce que les filles d'abord.
Oh,
c'est sexisme.
Vous êtes trop gentil.
Alors,
moi, vous me retrouvez sur virginradio.fr en écrit et sur Twitter, c'est mon nom, c'est TV Shows_Freak,
FREAK.
Très bien. Maintenant, Tom, du coup.
Avec blasé.
Oui, sur @smallthingsfr sur Twitter, @tomwitwiki, @serialcauseur,
sur Twitter,
sur Facebook, sur YouTube, surtout, regardez nos vidéos, s'il vous plaît, sinon on va mourir.
Sur tous les internets. Et Alan?
Et du coup, vous pouvez me retrouver sur l'info tout court et sur le Twitter de l'info tout court. Sachant que nous avons aussi deux autres sites, ce qui nous fait la vie du dérivé et Guimauve, et qui ont les mêmes Twitter.
Ah. Quant à moi, vous me retrouverez sur Small Things, sur Twitter @zforstuff et sur le podcast des 4 Horsemen. Bonne semaine à tous et on se retrouve très vite. Au revoir.
À bientôt, salut.
Au revoir. Salut.